Il est 20h30 à Paris et Kinshasa, 19h30, temps universel.
Afrique Soir sur RFI. Zéphirin Kouadio.
Bonsoir à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, reprise des combats dans le sud, Kivu. Affrontement entre l'armée appuyée par ses alliés et le M23 soutenu par le Rwanda. Les principales églises du pays se mobilisent pour trouver une solution à la crise dans l'est du pays. En Tunisie, de lourdes peines de prison contre le leader du parti d'opposition Ennahda, de plusieurs journalistes et plusieurs personnalités politiques pour atteinte à la sûreté de l'État, verdict politique injuste selon des proches de certains accusés. La mission multinationale de sécurité en Haïti, hors de danger, selon les autorités kényanes. Hier, les Nations Unies ont annoncé le gel des financements américains de cette mission, mission menée par le Kenya pour aider les autorités haïtiennes à lutter contre les gangs. RDC, les combats ont donc repris dans le sud Kivu. Ils opposent l'armée congolaise et ses alliés au M23 et aux militaires rwandais. Des combats qui se concentrent autour de la localité de Nyambimboé dans le territoire de Calais. À Kinshasa, le récit de Pauline Azidi.
Nos positions ont été attaquées, affirme Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement congolais, qui ajoute que le M23 a rompu le cessez-le-feu qu'il avait lui-même unilatéralement décrété le 3 février 2025. Des affrontements qui ont donc commencé aux premières heures du matin ce mercredi dans le territoire de Calais et aux alentours de la localité de Nyambimboé. Selon le gouvernement, des renforts rouges Rwandais auraient traversé la frontière à Goma dans la nuit pour venir appuyer cette offensive sur les positions FARDC. Les populations ont été prises par surprise après l'accalmie de ces derniers jours sur ce front sud. Selon des responsables de la société civile sur place, les gens ont commencé à quitter leur maison n'emportant avec eux que quelques affaires. Des déplacements ont en effet été signalés vers le sud, notamment en direction de la capitale provinciale Bukavu. Mais selon une source locale, d'autres habitants ont préféré rester terrés chez eux en attendant la fin des affrontements. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et puis 10 jours après l'offensive du M23 et de l'armée rwandaise sur la ville de Goma, les principales églises du pays se mobilisent pour trouver une solution à la crise dans l'Est. Cet après-midi, lors d'une conférence de presse, les représentants des églises catholiques et protestantes ont appelé à un dialogue national qui inclurait les différents acteurs du pays, y compris les rebelles du M23. Envoyé spécial à Kinshasa, Alexandra Brangeon.
Pour les représentants des deux principales églises du pays, il ne peut pas y avoir de solution à ce conflit si les protagonistes ne sont pas inclus dans la recherche d'une solution. Représentants des églises catholiques et protestantes ont annoncé le lancement de consultations avec les forces politiques du pays, y compris l'opposition, la société civile et les rebelles du M23. Même si de nombreux Congolais s'y opposent, souligne le pasteur Eric Tsenga, secrétaire général de l'ECC.
La question du M23, je l'ai dit ici, notre rôle ce n'est pas de dire X est un ange, Y est un démon. Si on ne fait pas ce travail, nous voulons trouver la solution. Donc je ne peux pas comprendre que nous parlions de la paix, mais en même temps, nous soyons sceptiques à tout mécanisme qui peut conduire à la paix.
Le responsable de l'église protestante indique que le projet a été soumis au chef de l'État qui ne s'y est pas opposé. C'est la première fois qu'une autorité congolaise évoque publiquement la possibilité d'un dialogue avec le groupe armé. Jusqu'à présent, le chef de l'État s'y était toujours refusé, évoquant une ligne rouge à ne pas franchir. Alexandra Banjon, Kinshasa, RFI.
En Tunisie, dans l'affaire Instalingo, impliquant des hommes politiques, des journalistes, des blogueurs et des hommes d'affaires, les verdicts sont tombés. Les juges ont eu la main lourde à l'égard des prévenus soupçonnés de conspiration contre la sécurité de l'État. Parmi eux, le leader du parti Ennahda, Rached Ranouchi, et l'ex-premier ministre tunisien, Hichem Mechichi. Les précisions de Frédéric Garin.
Âgé de 83 ans, Rached Ranouchi vient d'être condamné ce mercredi à 22 ans de prison par le tribunal de première instance de Tunis. Condamnation dans le cadre d'une affaire baptisée Instalingo qui implique, selon les autorités tunisiennes, plusieurs hommes d'affaires, journalistes et donc le leader du parti islamo-conservateur Ennahda. Le patron d'Ennahda écope d'une lourde peine, mais il n'est pas le seul. Son fils Mouad, sa fille Soumaya et son gendre Rafik Abdesalem, ex-ministre des Affaires étrangères, se sont vus respectivement infligés infligé des condamnations à 35, 25 et 34 ans de prison. Toujours dans cette même affaire, l'ex-premier ministre Hichem Mechichi est condamné par contumace à 35 ans d'incarcération. Dans ce procès monstre où pas moins de 50 personnes étaient inculpées, plusieurs journalistes ont également été condamnés à des peines équivalentes, ce qui fait réagir le syndicat national des journalistes de Tunisie qui dénonce un verdict lourd et injuste. Dans un autre communiqué, le parti Ennahda fustige un procès politique. Les avocats, eux, ont aussitôt prévenu qu'ils feront appel de ces jugements.
Frédéric Gara. Et puis en Côte d'Ivoire, le procureur de la République a requis 20 ans de prison contre Damana Picasse, un cadre du PPACI et 4 autres personnes accusées notamment d'atteinte à la défense nationale et de complot contre l'autorité de l'État. L'affaire remonte à 2021 après la tentative d'attaque d'un camp militaire à Abobo, au nord d'Abidjan. Au Nigeria, au moins 17 enfants sont morts et 17 autres ont été grièvement blessés dans l'incendie d'une école islamique informelle à Kaora Namoda. Le drame s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi, selon la police locale. Environ 100 élèves dormaient dans le dortoir lorsque le feu s'est déclaré. Les autorités ont ouvert une enquête. Le président Tinubu appelle à renforcer la sécurité des écoles. Le gouverneur de l'État de Zamfara s'est dit profondément attristé par cette tragédie. Au Niger, l'information circule depuis hier soir. Le gouvernement a demande au comité international de la Croix-Rouge de quitter le territoire. Les autorités n'ont avancé aucun motif pour justifier cette décision. C'est par une simple note vocale que Niamey a exigé le départ du CICR. La mission multinationale de sécurité en Haïti, hors de danger, c'est en tout cas ce qu'affirment les autorités kenyanes. Hier, les Nations Unies ont annoncé effectivement le gel des financements américains de cette mission menée par le Kenya pour aider les autorités haïtiennes à lutter contre les gangs. Les États-Unis devaient contribuer à hauteur de 15 millions de dollars sur un budget total de plus de 110 millions de dollars. Les autorités kenyanes assurent que la décision de Washington n'affectera pas la mission. Correspondance à Nairobi, Gaël Alex.
Pour Korir Singoï, le ministre des Affaires étrangères kenyan, il n'y a pas péril en la demeure. Il suffit de faire les comptes. Le fonds fiduciaire a déjà reçu 85 millions de dollars, explique-t-il, grâce à de multiples contributeurs comme le Canada, la France, la Turquie, l'Espagne et d'autres encore. Korir Singoï l'assure donc, le fonds dispose de ressources suffisantes pour continuer à financer la mission jusqu'à la fin de l'année. D'autant plus qu'elle est bénéficiaire de la dérogation, ajoute Monica Juma, conseillère sécurité du président kényan. Elle fait ici référence à une liste d'exemption au gel des financements américains publiée fin janvier par le département d'État. Les autorités kényanes concèdent néanmoins que pour perdurer, la mission en Haïti devra changer de forme. La transition vers une mission des Nations Unies à part entière est une priorité, conclut le ministre des Affaires étrangères. En décembre, la presse kényane avait révélé que les policiers déployés en Haïti n'avaient pas touché leur paye depuis plusieurs mois, ce qu'avait démenti l'inspecteur général de la police, Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est plaint auprès d'Elon Musk de la désinformation ayant alimenté les déclarations du président américain Donald Trump et du mania de la tech sur une prétendue confiscation de terres en Afrique du Sud. C'est ce que rapporte ce mercredi le porte-parole du président sud-africain. Ismaël Bennacer a été officiellement présenté à son nouveau club, l'Olympique de Marseille, ce mercredi. L'international algérien est prêté à l'OM par l'AC Milan pour les 6 prochains mois avec une option d'achat à la fin de la saison. Ismaël Bennacer, milieu de terrain de 27 ans, vient de passer 5 années à Milan. En sélection nationale, il a été sacré champion d'Afrique en 2019 avec les Fennecs. Il avait été désigné d'ailleurs meilleur joueur de la compétition. À Marseille, il espère en tout cas se relancer après des mois marqués par les blessures. Il arrive dans un club où il a toujours rêvé de jouer.
J'étais supporter en moi de l'OM. J'ai toujours été supporter de l'OM en étant petit. De toute façon, quand on habite Marseille ou près de Marseille, il n'y a pas d'autre club que l'OM. J'ai un souvenir, je crois, c'est quand j'avais 8-9 ans. Je suis parti voir Marseille-Nantes. Ça remonte. J'étais parti voir avec un collègue à moi et son père. Sinon, après, je regardais l'OM qu'à la télé avec mon père. Ça a toujours été quelque chose d'exceptionnel. Moi-même, j'ai joué ici il y a 2 ans en amical. Et j'étais de l'autre côté. Et déjà, c'était quelque chose d'exceptionnel. Alors, j'imagine pas si je suis du bon côté, comment ce sera.
Voilà le footballeur algérien Ismaël Benacer, nouveau sociétaire de l'Olympique de Marseille, dans le sud de la France. Avant de refermer ce journal, un mot de cette grève générale de deux jours qui a débuté ce mercredi matin. Au Maroc, les cinq principaux syndicats du pays ont appelé à cesser le travail dans tout le royaume. Leurs revendications portent sur le pouvoir d'achat des travailleurs, le taux de chômage, mais surtout sur cette loi votée par le Parlement il y a deux jours, loi qui encadre le droit de grève. Il est 20h40 à Paris.